mode d'emploi.
Ok, bienvenue sur Mode d'emploi, séquence secret de fabrication. Donc, comme tous les troisièmes vendredis de chaque mois, nous allons parler de la vie, des luttes, des résistances dans les entreprises. Pourquoi les salariés refusent de baisser la tête et refusent de se laisser chosifier et continuent à défendre leur identité, leur valeur humaine dans les entreprises, de la plus petite à la plus grande. On va continuer notre tour d'horizon. Alors cette semaine, on va surtout se concentrer sur le gentil clown distributeur de sandwich. J'ai nommé Ronald McDonald. Et chez Ronald McDonald, ça se passe pas toujours très bien et les salariés sont pas toujours contents. Mais ils apprennent à le faire savoir. Faut pas s'inquiéter. Alors, on va commencer par une petite séquence rappel. Alors, rappel sur le secret des affaires. Et oui, parce que la loi sur le secret des affaires, traduction d'une directive européenne tout à fait mal intentionnée, est en cours de validation. Et y a beaucoup de gens qui s'élèvent contre ce secret des affaires. Donc, juste pour vous faire part d'une petite action qui a eu lieu cette semaine, le mardi 15 mai, 7h30, une centaine de militants et de personnalités ont déployé une banderole géante. Et effectivement, elle est vraiment géante. Elle fait facile, c'est 40 mètres de long. Devant l'Assemblée nationale, pour interpeller Emmanuel Macron et les parlementaires sur la proposition de loi secret des affaires. Alors, c'est quoi le problème de cette loi secret des affaires? C'est que c'est une loi Bayon. C'est une loi Bayon pour tous ceux qui veulent dénoncer leur employeur indélicat dans ce qu'il peut avoir d'illégal dans ses pratiques. Alors on sait que ça peut exister, hein. On a vu LuxLeaks, on a vu WikiLeaks, on a vu que effectivement, c'est pas parce qu'une entreprise dit que tout se passe bien à l'intérieur que tout se passe bien à l'intérieur, et même des fois, elle passe du mauvais côté de la loi et elle compte sur ses salariés, elle compte sur tout son personnel pour fermer sa gueule. Et la loi secret des affaires est là pour l'aider. C'est une loi, en fait, qui restreint la possibilité de lancer l'alerte, donc qui est contre les lanceurs d'alerte, et qui durcit et dont les effets sont de durcir aussi, par exemple, vous savez très bien que cette émission est animée par des inspecteurs du travail et que donc, résultat net, ces personnes sont en première ligne car le secret des affaires, c'est exactement le contraire de ce qu'ils cherchent à faire, eux. Hein, ils sont payés, eux, pour faire sortir les mauvais secrets des entreprises et là, il y a une contradiction directe dans les termes. Donc, l'action se poursuit. Si vous voulez en savoir plus, alors il y a un lien YouTube vers une vidéo qui s'appelle « Loi secret des affaires, une menace pour le droit d'information » et qui est donc c'est une vidéo de Élise Lucet. Donc je ne vais pas vous mettre le lien YouTube parce qu'évidemment c'est toujours hyper compliqué les liens YouTube à lire à la radio. Donc tout ce que je peux vous inviter à faire, c'est d'aller sur YouTube et de taper « Loi secret des affaires, une menace pour le droit à l'information » et je pense que vous tomberez, si vous tapez en plus Élise Lucet, ça ira encore mieux. Je pense qu'il n'y aura aucun problème. Et elle explique ça très bien et en détail du pourquoi cette loi est une loi scélérate contre laquelle il faut s'élever. Bon, évidemment, tout ça, ça pourrait être des mauvaises nouvelles, mais en fait, il y en a aussi des bonnes. Par exemple, une brève sortie sur Bastamag qui célèbre la victoire définitive en cassation contre Bolloré. Et oui, car Bolloré a lancé plusieurs procès contre Bastamag qui s'interrogeaient un peu sur les processus d'accaparement de terre qui avaient lieu en Afrique. Et pour leur faire fermer leur gueule, Bolloré a lancé des procédures Bayon qui se sont visiblement retournées contre lui car la Cour de cassation est en train d'appliquer la jurisprudence en matière de droit de presse et de dire tout simplement que les enquêtes de Bastamag sont cohérentes, qu'elles sont de bonne foi et qu'elles sont établies dans les règles du journalisme. Bon, voilà quoi. Merci Bolloré. Tu pourras repasser. Ah oui, par contre, toi, Bolloré, mon ami, tu es convoqué, hein, parce que. Et toi aussi, la corruption, tu connais. Donc, le secret des affaires, c'est bien d'essayer de se planquer derrière, mais encore faut-il répondre de ses turpitudes. Voilà, c'était la phase mise à jour sur cette règle de secret des affaires dont on va vous tenir informé au cours des autres séquences de cette émission car ça nous impacte particulièrement. Et puis après tout, l'émission s'appelle bien Secret de fabrication, donc c'est un peu logique qu'on se penche sur cette question-là. Voilà. Mais bien évidemment, on va donc se pencher sur une entreprise en particulier, une entreprise qui vend de la viande. Qui vendent la viande en grand. Et c'est pourquoi on a décidé de commencer par une petite chanson sur la boucherie, qui va nous être délivrée par Boris Vian, et qui dit en fait tout ce qu'il y a à dire sur le trafic de la viande.
C'est le tango des bouchers de la Villette. C'est le tango des tueurs des abattoirs. Venez cueillir la fraise et le goût. Plus de bonhomme et plus d'amour. Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin.
Et voilà, donc ça c'était le tango des joyeux bouchers de la Villette. Alors pourquoi les bouchers de la Villette? Juste une petite incise. C'est qu'à l'époque, la grande époque où ils avaient lancé tous les abattoirs, le personnel des abattoirs était une cible privilégiée de la propagande d'extrême droite. C'était le projet de groupes comme l'Action française ou les Croix de Feu était de recruter un maximum dans cette profession qui était essentiellement composée par des professionnels indépendants qui travaillaient sur place, mais qui n'étaient pas à proprement parler des salariés, qui n'étaient donc pas syndiqués et qui étaient très réceptifs aux images de violence et de virilité que pouvait véhiculer l'extrême droite à l'époque. Et donc c'était une cible privilégiée. Et ils ont constitué, pendant une période, une courte période, ils ont constitué une partie des bataillons, des ligues et des forces factieuses. Donc il y a quand même un message politique sous une chanson, mais ça c'est toujours le cas avec Boris Vian. Il y a toujours un message politique ou sociétal sous une chanson en apparence anodine. Bon, ben ça c'était pour introduire le sujet de la viande, puisque nous allons parler tout au long de cette émission d'une entreprise qui en vend pas mal, même si elle est un peu dénaturée, si j'ai bien compris. Mais bon, voilà, j'ai voulu parler donc de McDonald's. Je suis avec Raphaël. Raphaël, bonjour.
Bonjour.
Voilà, donc tu es militant de...
Donc je suis militant du syndicat Solidaire et aussi d'une association qui s'appelle le REACT, Réseau d'Action Collective Transnationale, et qui lutte contre Bolloré, McDo et autres multinationales.
Tous nos amis quoi.
Voilà.
Ouais, ok. Et donc ces derniers temps, tu as beaucoup été sur des piquets McDonald's en fait.
Exactement, ça fait un an que je suis bien impliqué bénévolement sur McDo, notamment... le McDo des Champs-Élysées au départ, parce qu'on a un camarade là-bas, Massamba Dramé, qui était pas dispo ce soir, mais qui lutte d'arrache-pied depuis une bonne dizaine d'années, sur un McDo qui est passé en franchise, il y a quelques mois, suite à l'élection en fait de Sud McDo au comité d'entreprise.
Au comité d'entreprise de McDonald's en fait.
De McDo Paris Nord, c'est ça.
C'est ça.
Dans ce qui était le réseau des McDo, d'une quinzaine de McDo rattachés directement à la compagnie.
D'accord. Parce que justement, on va voir, et c'est ça un peu, l'introduction du sujet, c'est que McDonald's a une manière très particulière en fait de fonctionner, hein, et qui c'est pas la première fois qu'on voit ça hein, dans l'émission, hein, parce qu'on étudie de près un peu la structure des entreprises quand même quand on discute. Mais McDonald's l'a poussé, on va dire, à la technicité, à la perfection maximale. C'est le système de la franchisation et de l'éclatement en fait des collectifs de travail. Donc comment ça marche? Qu'est-ce qu'ils cherchaient à faire? Et d'abord combien de restaurants ça représentait? Qu'est-ce qu'ils avaient comme projet initial?
En fait, McDo en France a un peu plus de 1400. Restaurant, McDo quoi, c'est dur de dire des restaurants.
Oui, bon, des fast-food quoi. Okay.
Ouais, des fast-food. Allez. Donc ils en ont plus de 1400 et 80% sont franchisés.
D'accord, 80%.
Voilà.
Ouais,
donc 20% chiffre... des McDo sont rattachés directement à la compagnie. Rattachés à la compagnie, ça veut dire qu'ils sont gérés dans une entité d'un certain nombre de restos. Donc rien qu'en Île-de-France, ils ont découpé quand même en 4 zones parce que s'il y avait qu'une zone, ça aurait été trop compliqué pour eux. Ils auraient dû avoir une représentativité syndicale un peu solide face à eux. Donc ils ont préféré tout découper. Donc rien qu'en Île-de-France, pour donner un exemple, il y a McDo Paris Nord, Paris Sud... Est et Ouest.
D'accord.
Donc ils ont divisé en 4 zones. Ça leur permet d'avoir une quinzaine de McDo à chaque fois. Et dans ces McDo rattachés à la compagnie, en fait, il y a quand même quelques petits acquis par les salariés, comme le 13e mois, des primes de participation, le paiement de mutuelle, etc. Donc il y a eu quelques acquis, ce qui n'est pas le cas dans les franchises.
Ah, d'où l'intérêt, effectivement, de choisir un certain nombre de restaurants pour franchiser. Et donc, Mais il s'avère que là, on était face à une opération, je dirais, plus préventive, en fait. C'était quelque chose qu'ils ont mis en place parce que il s'est passé une élection et il s'est passé la désignation d'un délégué syndical.
Voilà. En juin 2017, sur McDo Paris Nord, il y a eu les élections. Et contre un peu toute attente, Sud McDo a fait son entrée au comité d'entreprise, ce qui n'était pas du tout prévu par la compagnie et très mal vu parce que Sud est un syndicat combatif, comme on le sait en général,
En tout cas, c'est la réputation.
C'est la réputation du syndicat. Et c'est vrai que ce syndicat, avec Massamba Dramé dont je parlais, a été très combatif pendant plusieurs mois. Tout l'été 2017 et fin août, il commençait à y avoir des rumeurs de mettre le restaurant en franchise. Et c'est ce que la compagnie a annoncé en septembre. Et finalement, après le montage du dossier, il s'est avéré qu'ils l'ont fait de manière totalement précipitée pour évincer Sud du comité d'entreprise. Alors, ça a été bien travaillé, d'ailleurs, le dossier syndicalement avec l'inspection du travail localement, qui a montré... Le rapport de l'inspecteur est clair qu'il y avait de la discrimination syndicale.
D'accord.
Le but du jeu, c'était d'évincer un syndicat au profit de syndicats maison plus coopératifs pour la compagnie.
De toute façon, ça changeait la nature du CE. C'est-à-dire qu'on avait une partie du personnel qui ne votait plus dans la compagnie. Il y avait le délégué syndical qui était évidemment dans un des McDonald's franchisés, je suppose.
Donc il était dans le McDo France et il a été mis en franchise.
Ouais, c'est ça.
Mais l'inspection du travail a refusé le transfert des salariés protégés.
OK. Donc alors attends, donc on est dans la situation suivante. Maintenant les McDonald's ont été franchisés quand même.
Donc il a quand même été franchisé celui-là. Pour l'instant, on est dans cette situation, donc ça fait des pertes quand même énormes pour les salaires, donc pour les salariés. Le 13e mois qui va disparaître au bout de 15 mois.
Ouais, logique. Ouais,
les primes de participation, la mutuelle, enfin voilà, des avantages acquis vont disparaître pour ceux qui les avaient. Mais la logique de McDo, c'est aussi et surtout d'avoir un très fort turnover. Donc le but du jeu, c'est que tous les nouveaux rentrants ne partent pas avec les acquis.
Ouais, bah oui.
Donc très rapidement, en fait, c'est rentable de mettre en franchise pour McDo parce qu'ils gagnent énormément.
Au bout d'un certain temps, ils ont renouvelé toute la main-d'œuvre sur les nouvelles bases, en fait.
Voilà. Et en gros, le turnover, c'est de l'ordre de 80% sur une année puisque c'est beaucoup d'étudiants, beaucoup de petits boulots. Donc ça va très vite.
D'accord. Et on se retrouve en fait avec une main-d'œuvre qui tourne sans sens. C'est très difficile d'organiser syndicalement dans ces conditions-là quand même.
Donc c'est très dur, c'est beaucoup de jeunes, d'étudiants ou alors des salariés très précaires. On croise beaucoup de mamans seules avec leur enfant qui essayent de joindre les deux bouts comme elles peuvent. Et pour qui c'est très dur de lutter, de s'organiser. Souvent les gens ont un deuxième boulot. Parce que ça suffit pas. McDo prend rarement les salariés à temps plein. Ils font beaucoup de contrats temps partiel, 20 heures, 24 heures semaine. Donc les salariés tournent souvent, ils nous disent à 800, 900 euros, 1000 euros par mois en fait.
Ouais, d'accord. Donc effectivement, soit un deuxième boulot d'appoint, soit c'est soi-même un boulot d'appoint parce que bon, ce sont des étudiants, ce sont des gens qui cherchent quelque chose en plus quoi.
Exactement. D'accord. Donc très dur d'organiser. En plus, McDo, et on a rencontré un universitaire anglais qui a étudié le système McDo depuis le début, en fait, et l'arrivée en Europe notamment, et qui nous expliquait que McDo a des pratiques antisyndicales hyper rodées. C'est-à-dire que c'est dans sa stratégie de faire en sorte que les travailleurs ne se parlent pas, ne créent pas de lien, pas de collectif, et que surtout, ils ne puissent pas s'organiser à plusieurs ensemble.
D'accord. Donc effectivement, on pourrait penser qu'avec un système aussi rodé, ça se passe jamais, il y a jamais de problème. Mais c'est comme Garcimore, ça marche pas à tous les coups, hein.
Voilà.
Voilà. Donc tu vas nous parler de toutes les fois récentes ou moins récentes où ça a pas marché comme prévu en fait.
Exactement.
Alors, il me semble que dans ce système-là, on pourrait se dire que les résistances sont difficiles, mais il y a des collectifs qui résistent depuis un certain temps, d'après ce que tu m'as dit, c'est ça, hein.
Ouais, exactement. Donc Ben, sud Champs-Élysées là résiste bien, mais il y a aussi le syndicat la CGT McDo Île-de-France,
ouais,
qui est en lutte depuis quand même quelques années, qui fait des actions d'éclat, mm-hmm, qui là, ben, sur la dernière lutte du McDo de Magenta là, à la gare de l'Est la semaine, ouais, dernière, a fait l'occupation et a bien tenu pendant 5 jours 5 nuits, mm-hmm, donc c'est assez exceptionnel. Il y a aussi les Marseillais qui font un boulot, voilà, incroyable, ouais, donc c'est vrai qu'il y a plein de collectifs. J'oublie Quentin Léra, qui est à Villefranche-de-Rouergue, d'accord, dans le sud de la France, et qui ont fait une grève là-bas, les camarades vraiment historiques de 100 ou 150 jours il y a quelques mois. J'ai oublié le nombre de jours, mais c'était faramineux. Mm-hmm. Vraiment, il y a des héros dans les McDo, quoi, ouais, sur le plan syndical.
Ouais. Tu nous as parlé des Marseillais. Tu m'avais dit en off, là, avant l'émission, qu'ils avaient développé des pratiques bien béton pour faire plier McDo et que ça donnait des résultats. Vas-y, dis-moi en plus, ça m'intéresse.
Bah, ils sont un certain nombre à être très soudés, mm-hmm, à bien se connaître depuis plus d'une dizaine d'années, mmh, et à faire du syndicalisme d'action de terrain. Mmh. Un peu ce qu'on aime, quoi, finalement.
Ouais,
c'est,
bah,
pas,
ouais,
le syndicalisme bureaucratique, mmh, et de le pseudo-dialogue social, mmh, dont certains nous vantent les mérites.
C'est le bon syndicalisme dans ta face, comme on aime.
Exactement.
Okay.
Et donc, ils font des actions, ils vont dans les McDo avec... Bon, là, je pense à Kamel, qui est un peu le leader sur place et qui, mmh, nous a montré comment, en 5 minutes, il pouvait vider un McDo, quoi, de ses, et de ses clients, et comment réunir les salariés. Il nous dit, bah voilà, Raphaël, je t'explique, dans 5 minutes, il y aura plus un seul client, là, dans le restaurant. Et c'est vrai qu'ils rentrent à 10 avec un mégaphone, ils ont de la gouaille, ils ont de la pêche, ils,
ouais,
mettent l'ambiance.
Ouais.
Ils savent parler à la fois aux clients et aux salariés, et en 5 minutes...
Ils retournent le McDo
et il n'y a plus personne, quoi.
D'accord.
Et après, ils parlent aux salariés et ils se mettent en place. C'est un peu grâce à eux que l'occupation de la gare de l'Est s'est déclenchée vendredi,
d'accord,
dernier, parce qu'ils étaient montés pour une manif. Faut, okay, voir quand même, les Marseillais, ils sont montés à 50, ils sont montés en bus.
Bah ouais.
Tant qu'à faire.
Quoi. Bah, hein, ouais.
Donc ils montent en bus, ils partent le jeudi soir, ils arrivent, ils ont à peine dormi, on se voit le vendredi, action manif entre Gare du Nord et Opéra, on bloque 7 McDo sur ce qu'on appelle le rush. Le rush, c'est le 19-21h, c'est le moment où McDo fait le plus de profit,
d'accord,
et c'est là où les grèves sont efficaces.
Donc à cette heure-là, ils ont fait la tournée des McDo à bloquer, quoi.
Voilà, on, boum, était 200, c'était une excellente manif, belle ambiance, et 7 McDo bloqués. Chez Parmentier, le franchisé qui a récupéré le McDo des Champs-Élysées, parce qu'on voulait lui faire un petit clin d'œil,
ouais,
à ce bonhomme qui déclare pas ses recettes chaque année aux autorités, car il préfère payer des amendes, le bonhomme.
Ouais, je vois.
D'accord.
C'est plus noble.
Voilà.
Ouais. Il faut respecter le sens du style, quoi. C'est genre, non, je paierai jamais mes impôts. Plutôt crever, plutôt, ouf, payer des amendes. D'accord,
c'est ça.
Ok, je vois.
Donc, on lui a fait un petit clin d'œil. On lui a bloqué 7 McDo. Et là, j'avoue que les Marseillais ont été à la manœuvre et vraiment impressionnants. Mmh. Et puis, grâce aussi, donc, aux autres syndicats, hein, de la CGT, et Sud, bah, finalement, ça s'est terminé par l'occupation du McDo de la gare de l'Est, dès le vendredi soir. Mmh. Et jour et nuit, quoi, pendant jusqu'à, okay, mercredi.
Bon, bah alors, on va faire ça. Alors, on va essayer de remettre tout ça dans l'ordre chronologique. Comme quoi, McDonald's a quand même du mouron à se faire, parce que soi-disant, on a mis au point toutes les techniques du monde, mais là, tu viens de nous parler de quatre sites différents qui ont tous pris des pains syndicalistes dans la gueule, quoi, en fait, grosso
c'est
modo.
Ça,
ouais.
Ça.
Donc ça se passe pas si bien que ça en réalité pour la direction. Bon, ça c'est une bonne nouvelle. On va continuer. Alors, donc, tu nous as parlé donc de Paris Nord, tu nous as parlé de Marseille, donc avec une équipe redoutable sur place qui fait trembler McDonald's. Tant mieux, continuez les gars. Hein, voilà, c'est après, bon, un petit message aux Marseillais qui ne nous entendent pas, sauf s'ils sont sur le net. Bon, c'est pas grave d'avoir perdu 3-0, quoi. Je veux dire, l'important, c'est de mettre 3-0 à McDonald's. Donc là,
exactement,
ça vous faites. Donc il y a rien à dire, quoi. Hein.
Respect.
Voilà, c'est ça. On va commencer à parler des choses sérieuses là. Quoique j'ai pas dit que l'OM c'est pas sérieux, hein. Je veux pas une descente de Marseillais chez moi, les gars. Vous inquiétez pas. Bon, Bah, revenons à nos bovins, parce qu'il n'y a pas de moutons chez McDo. Donc revenons à notre viande de bœuf. Donc on a vu que, donc tu me disais Magenta, donc ça, Magenta, c'est encore un autre McDonald's où ça...
Voilà, c'est Gare de l'Est, c'est ça.
Ah, ça c'est...
C'est Magenta, c'est le nom de celui qui est à la Gare de l'Est.
Celui qui est à la Gare de l'Est, d'accord, ok, c'est le McDo Magenta en fait. D'accord, il n'y a pas de couleur particulière, c'est juste parce que c'est la station de métro, c'est ça?
C'est ça, ouais, ah, ça d'accord. Doit être sur la rue ou le boulevard.
Ok, d'accord, très bien. Et donc là, l'occupation, pour quelle... Enfin, c'est-à-dire, il y a bien une raison derrière, c'est pas juste pour faire plaisir aux Marseillais, me fais pas croire ça. Donc, il y avait bien un litige, un problème que les gens voulaient voir régler. C'était quoi?
En fait, il y a des délégués là-bas du personnel CGT qui sont combatifs depuis 2 ans. Mm-hmm. Et qui, parce qu'ils participent aux réunions avec la direction, le dialogue soi-disant, ils font remonter les problèmes régulièrement, des conditions de travail, des salaires.
Comme des DP, quoi, des vrais.
Voilà, comme des DP. Et à chaque fois, bah, en fait, ils se font enfumer, quoi. C'est-à-dire qu'on les balade et on leur répond pas. Et surtout, rien ne bouge, quoi. Donc là, ils se sont dit, il va falloir durcir le mouvement et se mettre en grève. Et c'est ce qui s'est passé. Ils se sont mis en grève depuis vendredi dernier. Aujourd'hui, ils sont toujours en grève.
D'accord.
Et aux dernières nouvelles, ils n'ont pas prévu d'arrêter. Donc, c'est assez impressionnant, cette combativité. Il faut dire aussi une vraie solidarité qui s'est mise en place là, avec une caisse de grève, avec des soutiens qui sont venus aux occupations et qui passaient régulièrement. Il y avait, je sais pas, le centre social autogéré d'Ivry qui est venu faire une cantine populaire. Il y a eu pas mal d'étudiants qui étaient présents. Enfin, vraiment une belle solidarité, une belle convergence. Et là, ce que moi j'ai découvert, c'est finalement la jonction entre les salariés des McDo qui étaient toujours un peu à part et le mouvement social en cours qui est en train de se rejoindre et de se retrouver. Et d'accord. Finalement, ils viennent aux actions un peu plus globales de convergence et inversement. Et donc, tout le monde se retrouve plus fort. Il y a des cheminots qui sont venus soutenir le mouvement de la Gare de l'Est. Ils nous accueillaient pour aller tracter, imprimer des tracts chez eux, dans leur syndicat. Enfin bref, avec Sudrail, ça a été assez exceptionnel ce qui s'est passé. Ils nous ont invités dans l'AG de cheminots dans la semaine. Les syndicalistes et salariés de McDo ont pu parler. Donc, il y a vraiment des beaux échanges. C'était chouette. Et donc... ils se sont rendus compte, voilà, pour répondre, que s'ils durcissaient pas le mouvement, ils n'arriveraient jamais à gagner quoi que ce soit.
D'accord.
Voilà, donc pour l'instant, le franchisé, Parmentier, fait toujours le mort, donc il répond pas. Mais je pense qu'il commence à avoir pas mal de sueur froide, parce qu'il ferme souvent maintenant les McDo quand on s'en approche de trop près.
Trop drôle. La fermeture préventive.
Exactement.
Mais c'est du lockout.
C'est un peu ça.
C'est illégal. Ah, mais c'est trop fort. Faut tout de suite occuper ça. Alors le truc, c'est que le lockout, c'est magique. Le lockout, c'est quand le patron met ses salariés dehors en leur interdisant de travailler. Le problème, c'est que ça transforme l'entreprise en un bien indivis, c'est-à-dire qu'on ne sait plus à quoi servent les locaux, et c'est beaucoup plus difficile d'avoir une légitimité quand on refuse de faire travailler les salariés dedans, paradoxalement, ce qui fait que le lockout est une arme à manier avec énormément de précautions de la part des patrons. Alors, je ne suis pas en train de donner des conseils aux patrons. De toute façon, il n'y a pas de patrons qui nous écoutent, ou alors ils sont à patron debout, on les pardonne. Donc voilà, mais en fait, effectivement, c'est une arme à double tranchant. On peut très vite se retrouver avec une entreprise occupée, récupérée, bloqué, envahi, enfin de toutes sortes, parce que en lockoutant, on casse la légitimité de l'entreprise et on casse en fait la légitimité du patron lui-même. Il se tire une balle dans le pied en fait, parce que il met un terme à son utilité sociale. Et donc de quelque chose qu'il fait vivre au bénéfice de ses salariés, ce qui est une manière de voir les choses bien sûr, mais voilà, cette façade-là disparaît totalement. Et donc, l'entreprise ne devient plus qu'un bien à prendre, un terrain à conquérir. Donc, c'est pour ça que, en fait, on en voit assez peu des fermetures autoritaires de ce type-là. C'est que le risque est grand, le risque est élevé. Et donc, pousser les patrons au lockout, c'est le plus fin plaisir des gourmets de la grève. Ça veut dire qu'on a gagné, en réalité. C'est que le patron jette l'éponge. Donc ça, il faut le savoir, parce que c'est un peu contre-intuitif. Si on se dit qu'il a le pouvoir de fermer la boîte, bah c'est que il est tout puissant. Mais en fait, non. Fermer la boîte alors qu'elle est encore en activité, c'est très très dangereux.
Et c'est ce qu'ils ont fait à partir du samedi matin, quand après la première nuit d'occupation, le patron a demandé à ses salariés de pas venir travailler, à continuer de les payer.
Ouais.
Parce que ce qu'ils ne voulaient pas, c'est qu'ils puissent se mettre en grève et rejoindre les salariés grévistes.
Ouais. Et puis, il fallait isoler la contagion.
Exactement. Parce qu'en
plus, il a 7 franchises, c'est ça, en fait, il a donc, 7 McDo.
Il en a 24.
Ah,
c'est toujours Parmentier, c'est notre ami Parmentier.
D'accord, donc c'est lui qui a récupéré le bébé, en fait.
Oui.
Donc, grosso modo, si je comprends bien, quand il y a une implantation syndicale qui se fait, c'est Parmentier qui récupère le morceau.
Alors oui, est-ce que il faudrait demander aux camarades là de la CGT au-dessus, parce que moi je suis soutien, mais peut-être que c'est un peu le dégommeur, quoi,
c'est ça,
celui qui vient faire le sale boulot
ou la zone interdite.
Ouais.
Ouais.
Faut que je creuse cette question avec les camarades. Ouais.
J'espère qu'il a un bon deal avec McDo, hein, parce qu'ils ont décidé de se servir de lui méchamment quand même. Hein.
Mais je crois que les franchisés se font 40 à 50 000 euros de bénéf par McDo par mois.
Non, tant que ça.
C'est le chiffre qu'on m'a donné.
Ah, la vie est belle.
Donc, je crois que la vie est très, très belle pour eux.
Ouais.
Et là, actuellement, ils sont quelques-uns à être des très gros franchisés.
Ouais.
Et McDo, dans la politique actuelle, d'après ce que j'ai compris, veut limiter les très gros franchisés, veut plus en avoir autant comme ça.
Parce que ça génère des problèmes.
Voilà, alors ça, je ne sais pas ce que ça peut provoquer, mais... je ne sais pas quel est le souci pour la compagnie. Ouais.
Ok, donc on est en train de parler d'une lutte en cours là. Hein. On aime bien faire ça dans cette émission en fait. C'est parler de ce qui se passe actuellement, hein, même si on prend un peu de temps pour le détailler, c'est de l'actualité quand même. Et donc là, alors les revendications, c'est quoi là à l'heure actuelle? Sur quoi ils sont partis? Qu'est-ce qu'ils réclament? Qu'est-ce qu'ils voudraient obtenir?
Les salariés, ce qu'ils demandent, c'est des choses très concrètes, 13 euros de l'heure.
Okay.
Aujourd'hui, ils tournent à peu près à 8,5 pour les équipiers de base. Ils voudraient 13 euros, ce qui n'est pas faramineux quand on pense aux Américains qui ont fait une grosse campagne qui s'appelle Fight for 15,
ouais.
La bagarre pour les 15 dollars, qui a été gagnée en fait dans des États américains, Californie, État de New York, où ils sont passés de 7 dollars à 15 dollars de l'heure en une campagne qui a duré un an ou deux à peu près.
C'est ça.
Donc, ils ont plus que doublé. Et quand je dis dans l'État, c'est-à-dire que c'est les salariés des fast-food, mais que c'est devenu le salaire minimum pour tous les salariés de l'État. Grâce au fast-food, en Californie, ils ont obtenu le 15 dollars de l'heure pour toutes et tous.
C'est assez
fabuleux. Donc nous, on s'inspire aussi un petit peu de cette campagne, même si on n'a pas encore les moyens, parce qu'ils ont mis le paquet pour faire cette campagne.
C'était 15 bucks and a union. On voulait 15 dollars et un syndicat. Parce qu'elle est dans le, c'est ça, hein, il y avait cet aspect-là aussi. On veut aussi avoir la possibilité de se défendre collectivement, ce qui n'est pas gagné aux États-Unis.
Ouais, c'est ça.
C'est compliqué.
C'est compliqué, ce n'est pas les mêmes règles de représentativité. Il faut avoir plus de 50% de vote pour que le syndicat soit accepté. Et soit il y a un syndicat, s'il y a plus de 50%, soit il n'y a pas les 50 et il n'y a pas de syndicat du tout.
C'est ça.
Donc c'est,
l'implantation syndicale dans ce cas-là est interdite.
Voilà,
d'accord.
C'est ça. C'est blanc ou noir et c'est très, c'est très binaire là dans le...
Donc c'est un combat en soi, effectivement, d'acquérir du droit syndical. Évidemment, ça se passe dans un cadre de 15 dollars, etc. Ils ne se battent pas juste pour les beaux yeux des syndicats, mais pour eux, ça a un sens de lier les deux.
C'est ça.
D'accord.
Donc il y a eu cette revendication. Après, là, ici, pour les salariés en France, il y a aussi le fait d'avoir les primes de participation.
Mm-hmm.
Parce que grâce au système des franchises dont on a parlé tout à l'heure, le but, en fait, c'est d'éclater son réseau d'établissements en petites unités de moins de 50 salariés. Et moins de 50, McDo ne reverse pas les primes de participation.
Ouais.
Et on a un expert comptable qu'on pourra appeler là dans l'émission tout à l'heure, qui a travaillé sur ce système-là et qui montre qu'en fait, c'est l'équivalent de 1 000 euros par an par salarié que McDo vole à chaque salarié, 1 000 euros.
Dès lors qu'il est franchisé, en fait, dès lors qu'il est franchisé en dessous d'un certain seuil.
Voilà.
D'accord. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça, c'est une démonstration qui est quand même importante. C'est que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte. Cette question des effets de seuil, c'est quelque chose que qui a été absent de la visibilité des salariés pendant longtemps. C'est-à-dire que les syndicalistes était souvent un peu en porte-à-faux sur cette question-là, c'est-à-dire que on va être sous-traité, on va passer en dessous d'un seuil, il y aura pas de CE, etc. Oui, mais est-ce que globalement, est-ce que mes droits vont être respectés? Oui, Globalement, oui, jusqu'à récemment, le code du travail était à peu près le même pour tous, et toutes et tous, donc quel que soit le seuil de l'entreprise, les droits fondamentaux du salarié étaient respectés. Aujourd'hui, avec les ordonnances Macron, c'est plus le cas.
C'est ça.
Tes droits dépendent de la taille de ta boîte, encore plus qu'avant. Mais déjà, si j'ai bien compris le calcul, avant même les ordonnances Macron, le fait d'être subdivisé en entités plus petites occasionnait une perte indirecte, si j'ai bien compris, c'est par rapport aux avantages qu'ils pouvaient avoir à côté, une perte de rémunération globale en fait.
C'est ça, sur les primes de participation.
Ouais, d'accord. Voilà.
1000 euros en sachant que, comme je le disais tout à l'heure, le salaire mensuel est de l'ordre de 1000 euros pour les salariés. Donc c'est un 12e du salaire, c'est l'équivalent d'un 13e mois qui est volé par la compagnie sur chaque... sur chaque salarié. Et l'an dernier, il y a un rapport qui a été fait, qui a été signé par ATAC, la CGT McDo Île-de-France et le REACT, qui explicite tout ça. C'est un rapport qu'on peut trouver sur le net facilement et qui...
Alors, comment est-ce qu'on pourrait le chercher? Puisque avec Élise Lucet, j'avais donné quelques indications. Donc, comment on fait rapport McDonald's REACT, rapport McDonald's CGT McDonald's.
Oui, et ATAC.
Et ATAC, ouais, c'est ça, d'accord.
On va le trouver, oui.
Ok, bon, bah, on essaiera de trouver la meilleure piste pour trouver ça, parce qu'effectivement, c'est intéressant de prendre des billes, hein, et des lectures et des analyses. Donc, et là, donc, ils en sont. Donc, alors, détail de la grève. Donc, le vendredi, tournée des Marseillais, si j'ai bien compris. Donc, ils retournent les McDo les uns derrière les autres.
Voilà.
Parfait, bien joué les gars.
Alors là, McDo ferme de manière préventive. Mm-hmm. Donc, on n'a même pas besoin de rentrer dans les McDo et de... On ne met même pas un pied. Mm-hmm. Les McDo sont fermés. Et donc, la petite surprise, ça a été de faire une action après cette manif. Action surprise,
ouais.
D'entrer dans le McDo où des grévistes se sont déclarés. Mm-hmm. Et où c'est parti. Tout le monde a décidé de rester et de s'organiser collectivement.
D'accord.
Agé dès le premier soir avec les étudiantes, les étudiants, avec les soutiens qui étaient là. Comment on s'organise de manière très concrète et stratégique.
D'accord.
Ça a tenu plus de 5 jours comme ça.
Ça a tenu plus de 5 jours. Et ça, c'est, alors, ça s'est fini comment? Parce que j'ai l'impression que ces derniers jours-là, ça s'est un peu accéléré, là, c'est ça?
Ouais. Alors, en fait, McDo qui ne supporte pas la contestation qui ne supporte pas d'avoir des gens qui se battent, a fait venir ses vigiles, les a fait rentrer dans le McDo occupé et a viré, en fait, les soutiens un à un. Et par la force, de manière violente.
Les soutiens.
Voilà.
Pas les grévistes.
Alors, non, les grévistes, ils n'ont pas osé les toucher.
Ouais, ils ne pouvaient pas, en fait. Ouais.
Voilà.
Ouais.
Donc, ils ont sorti les soutiens. Et quand les grévistes se sont retrouvés à quelques-uns, une poignée dans le McDo, entourés de plus d'une dizaine de vigiles, c'est vrai que là, le rapport de force n'était plus favorable pour tenir et occuper. Donc, depuis mercredi... L'occupation des grévistes est levée.
Ouais.
Là, aujourd'hui, le McDo, il est occupé par les vigiles et il n'a toujours pas rouvert. Donc, ça nous fait pour l'instant marrer. Bon, il va de soi que McDo va tenter de le rouvrir assez vite. Mais en tout cas, ça a bien marché une semaine et on a pris beaucoup d'expérience dans cette occupation qu'on va sûrement pouvoir déployer partout en France. Parce que ça fait un peu tache d'huile quand même. Là, hier, on a des camarades à Dijon qui ont dit, en soutien avec les salariés de Paris et de Marseille, on envahit un McDo à Dijon.
Okay.
Et ils l'ont fait.
Et ils l'ont fait.
Donc, on trouve ça assez génial et on les félicite.
Ah, c'est pas mal, ça. Donc, t'as bon espoir que ça fasse tache d'huile, hein, c'est ça?
Bah, l'idée, en fait, ça serait de voir avec tous ceux qui et toutes celles qui sont prêts à se bagarrer contre McDo, parce que ça fédère beaucoup de monde, en fait.
Ouais.
McDo, avec son système d'évasion fiscale, de pratiques antisyndicales, de pratiques des bas salaires, de malbouffe.
Oui, aussi.
Au niveau écolo, c'est évidemment ignoble ce qui est fait, parce que. C'est un des plus gros acheteurs de viande en France et donc c'est dans des c'est pas du bio quoi ce qu'ils font au McDo.
Non.
On sait aussi, on avait fait une action pendant le salon de l'agriculture il y a un an, que McDo met quand même des pesticides dans ses frites. Donc ils font beaucoup de marketing.
Voilà, il y a des pesticides.
pesticides dans les frites McDo, quoi. C'est les frites McCain, elles sont aux pesticides. Donc, ils font beaucoup de marketing pour attirer les enfants. Mais nous, on appelait ça les pestifrites, quoi.
D'accord. Les pestifrites. Ouais. Bon, bah, ça, c'est ça. On va reprendre une rasade de pestifrites, alors, hein. OK. Bon, bah, je vois qu'il y a quand même pas mal de reproches à faire à McDonald's. Le fait que, donc, les salariés se mettent en mouvement, est-ce que pour le moment, est-ce qu'on sent une, comment dire, ils sont quoi, l'attitude de la direction de McDo? C'est plutôt, on fait les morts, on fait le gros dos, on attend que ça passe, on utilise des méthodes du genre subdélégué à Parmentier la gestion des syndicalistes, etc. Est-ce qu'il y a des négociations qui sont ouvertes? Est-ce qu'ils sentent la pression à ce point-là, ou est-ce que c'est encore devant nous, ça?
Pour l'instant, non, ils pratiquent la répression,
ouais.
La com,
ouais.
Ils font de la com. C'est-à-dire que là, le mercredi de l'occupation, le dernier jour, en fait, ils font venir leur boîte de com Havas,
ouais.
La responsable de
Havas.
La com,
ouais.
Qui est là pour en fait essayer de contrecarrer la grève et les désagréments, quoi.
Ouais. Ok. Bon. Je vois qu'effectivement, il y a pas mal de raisons de se plaindre. Alors, on va passer une petite musique à l'instant, histoire de prendre notre invité au téléphone. Alors, je vous préviens, c'est quelque chose que j'ai chopé sur YouTube. C'est un petit chanteur amateur qui fait des chansons parodiques sur McDonald's. Il a un public. Donc ça va applaudir un petit peu, il y aura des bruits de salle, mais je trouvais ça très très sympathique et donc j'ai décidé de vous en faire profiter.
Depuis que la TVA est à 7, McDo fait des portions pour un 7. Tu peux boire gratos l'eau tiède du lavabo. Et pour les obèses, ils font des prix de gros. Il y en a qui font la queue tous les midis pour tenter le suicide au pain de mie. Goûter le poulet élevé en bassin, à peine digéré, t'es déjà mort de faim. Même à Mio, oh oh oh, le patron du resto, oh 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 oh, s'appelle McDo. Que dirait-il si j'osais te dire sans me démonter que je fais la manche devant chez McDo? Au revoir. Un verre de soda, en guise d'apéro, qui te rendra barbouillé, à moins que tu fasses un euro. Un grand plein de relents, de frites vraiment trop grosses, qui te feront puer du bec, c'est franchement dégueulasse. Sans parler du service, monsieur, qui laisse à désirer à la grande harmonie. Voyez, j'ai la nausée. Le plat pourri de chez McDo. Avec de la salade aussi fine que diaphane, servie à la va-vite avec ce cellophane par de jeunes employés que l'on paye au lance-pierre. Et qui se tape le service, monsieur, et puis la serpillière au service d'une enseigne qui branle les salariés à grand harmonie. Voyez-moi le chevet, le blanc pourri de chez McDo. Car chez McDo, il y a tout ce qu'il faut pour choper une petite gastro.
Voilà, voilà. C'était donc une petite séquence musicale parodique. Et maintenant, j'ai Vincent au téléphone, si j'ai bien suivi. Vincent, tu m'entends ?
Oui, je t'entends.
Bon, bah, c'est parfait. Alors Vincent, présente-toi rapidement. Tu interviens au sujet de McDonald's et sous quel angle ?
Alors moi, je travaille pour un cabinet d'expertise comptable.
Mm-hmm.
Et j'ai mis donc... Euh, J'étais mandaté pour réaliser un travail sur les comptes des différentes sociétés McDo. Il faut savoir qu'il y a un millier de sociétés McDo en France.
Et oui.
Donc on a fait un gros travail d'analyse et de milliers de comptes.
C'est les travaux d'Hercule,
sur
ça.
Plusieurs années. Pardon?
C'est les travaux d'Hercule.
C'est les travaux d'Hercule, effectivement, pour mettre à jour les ficelles du système McDo,
oui.
Essayer de mesurer à quel point le groupe était rentable,
mm-hmm.
et puis voir s'il payait effectivement tout ce qu'il devait payer aux salariés.
D'accord.
Donc c'était un peu ça qui a guidé notre travail. Et donc le premier constat qu'on a pu dresser, c'était que le groupe McDonald's était une société en France incroyablement rentable. Il faut savoir que c'est en France que... Après les États-Unis, la France est le deuxième pays où McDo génère le plus de cash.
Ouais, ah oui.
Ça c'est une surprise, ça marche du feu de Dieu, McDonald's en France, bien plus que dans les autres pays où il y a une concurrence beaucoup plus forte. Et McDo a une position de quasi-monopole en France, ça marche très très bien, la croissance est extrêmement forte et la rentabilité aussi est extrêmement élevée. Donc en gros, quand on achète pour 10 € un menu chez McDo, les actionnaires, que ce soit le franchisé ou le groupe McDonald's mondial, empochent 2 € de bénéfices, qui est un niveau de rentabilité super élevé.
D'accord.
Donc si on compare par exemple avec Carrefour, quand on va chez Carrefour et qu'on achète pour 10 balles de course chez eux, le bénéfice est de 20 centimes. Donc là, le bénéfice relatif est 10 fois plus important chez McDo. C'est vraiment une entreprise qui gagne énormément d'argent. Et qui n'est pas très partageux, ça c'était le deuxième constat qu'on a pu dresser. D'une part parce qu'ils envoient une grosse partie de leurs bénéfices dans des sociétés à l'étranger, qui fait que l'argent qui devrait aller au fisc français est évité par ce phénomène de transfert fiscal.
Ouais.
Et puis le deuxième phénomène qu'on a chiffré, qui leur permet de maximiser leurs résultats et d'optimiser leurs bénéfices, c'est que en fait ils payent pas non plus complètement tout ce qu'ils devraient payer aux salariés, puisqu'il y a une loi en France qui oblige les sociétés à partager les bénéfices avec les salariés quand les bénéfices sont suffisamment importants. Et chez McDo, je viens de te le dire, les bénéfices sont vraiment très très élevés, mais la loi s'applique que dans les boîtes qui ont plus de 50 salariés.
Mmh.
Or McDo se sonne en petite unité, ce qui fait que ils partagent pas leurs bénéfices alors que les bénéfices sont vraiment extrêmement conséquents.
Ah.
Voilà, ça c'était le troisième constat qu'on a pu faire en analysant la myriade de sociétés qui composent le système McDo en France.
Donc c'est bien, on est bien d'accord, c'est ce qu'on avait conclusion intermédiaire en début d'émission, c'est que le système de franchisation, le système de sous-traitance, de filialisation que McDonald's utilise de manière très très systématique, c'est pour optimiser, hein. Ils optimisent leur capacité à faire des profits avec ça.
Ah, ça c'est très très clair. Mm. D'une part, ils mettent la pression sur le franchisé qui lui-même va être un petit gardien de son petit temple, qui va mettre une pression maximale sur ses salariés.
Mm-hmm.
Et puis d'un point de vue contournement du droit du travail, le fait de franchiser les restaurants, ça permet de faire qu'un groupe qui compte 70 000 salariés en France, donc un des plus gros employeurs privés de France, à mon avis un des 5 plus gros employeurs privés de France, se voit appliquer le droit du travail des TPE en fait. Donc
quelle trouvaille.
Donc pas de partage des bénéfices, pas d'obligation de négocier avec des salariés, avec des syndicats représentatifs, pas d'obligation d'avoir un CE, etc., etc. Donc tous les moyens qui sont mis en œuvre pour pouvoir garantir des droits sociaux minimaux.
D'accord. Alors moi j'ai un scoop dans l'autre sens.
Ouais.
Parce que là, j'ai eu plein d'infos par ton biais et par celui de Raphaël sur McDonald's, mais j'ai un scoop, c'est que, Raphaël, t'es assis, c'est bon, c'est Macron qui nous apporte la solution. Et pourquoi est-ce que Macron nous apporte la solution? Parce qu'il y a un petit passage passé inaperçu dans les ordonnances, qui était un peu un truc de cohérence qu'ils ont voulu garder, c'est qu'en fait, la détermination d'une unité économique et sociale dépend de la mise en place d'un CE. Or, le seuil de déclenchement du CSE est désormais de 11 salariés. Et les ordonnances Macron sur la mise en place des UES, des unités économiques et sociales qui permettent de regrouper des entreprises distinctes, mais avec une même gestion pour en faire un CE unique, est maintenant débloqué vers le bas. C'est-à-dire qu'à partir de 11 salariés regroupés au même endroit, on peut demander la mise en place d'un CSE. Et donc, on peut demander éventuellement une UES qui recoupe ce CSE et éventuellement un autre. Et on peut même demander la mise en place d'une UES, d'une unité économique et sociale, à partir d'un CSE de 11 salariés, puisque c'est un CSE comme les autres. Donc, il y a beaucoup de possibilités qui s'ouvrent pour nos autres amis syndicalistes. Je suis sûr que Raphaël n'en rate pas une de la régie là où il te suit. Parce que, bah, effectivement, c'est un domaine important. Et notamment, c'est quelque chose qui attaque directement cette capacité de, alors, on a vu, alors, dans l'émission, on a fait beaucoup de commerces différents et donc je te rends la parole tout de suite, mais juste pour dire qu'on a vu des Monoprix, on a vu des Franprix, on a vu des McDo. Cette pratique de la filialisation et de la franchisation, c'est extrêmement répandu, hein, on est d'accord.
C'est extrêmement répandu, mais en fait, le droit du travail existant devrait déjà permettre de faire partager les bénéfices. Mmh. Parce que généralement, les franchisés ont 3 restos, mmh. et quand tu cumules les effectifs des
3 restos,
mmh. Des 3 restos, tu passes la barre des 50 salariés. Donc, le droit, y compris avant la réforme Macron, permettait déjà de partager les bénéfices avec les salariés, sauf que les franchisés mettent en place un tas de tactiques pour s'assurer que l'US ne soit pas reconnu.
Mais oui.
Et ils ont développé des stratégies juridiques qui sont très sophistiquées, ouais. pour que les US ne soient pas reconnus, parce que pour eux, ce serait un manque à gagner conséquent.
Ouais, bien sûr. Et donc, ça va être quoi les conséquences de l'étude, pour revenir à l'étude que vous avez fournie, et donc, comme on a vu, un travail de titan, et donc, ça doit bien, voilà, ça va être quoi les répercussions? Elle est sortie quand d'ailleurs, cette étude?
Elle est sortie il y a à peu près un an.
D'accord.
Les répercussions, les espoirs, en tout cas, qu'on peut entretenir, mm-hmm. c'est que les salariés s'en emparent. Mm-hmm. pour aller faire reconnaître les US auprès des tribunaux, parce que c'est sûr que les franchisés vont pas d'eux-mêmes reconnaître les US pour avoir à partager les bénéfices avec leurs salariés. Mais maintenant qu'il y a toutes ces informations disponibles, nous, notre espoir, c'est que les salariés et les syndicats s'en saisissent pour aller faire reconnaître partout en France des US pour qu'ils puissent faire valoir leurs droits et pour qu'ils puissent enfin partager les bénéfices extrêmement conséquents de la multinationale McDo avec les salariés.
C'est le moment, quoi.
Voilà.
Tous les voyants sont ouverts, hein, on est d'accord.
Et c'est notre espoir. Donc voilà, Raphaël et moi, on se tient à la disposition des personnes qui le souhaitent pour avoir les informations financières qui vont bien, pour faire valoir ce droit au partage des bénéfices.
Ok, qu'on le sache, donc cette émission est désormais devenue une machine à construire des UES. On va bosser un peu là. C'est parfait. Bah écoute, c'est parfait toutes ces informations là. Ah oui, il y avait un dernier point que m'avait souligné Raphaël, donc je voulais t'entreprendre là-dessus avant que tu nous laisses. Il paraît que l'immobilier c'est quelque chose qu'ils ont réussi à optimiser aussi pas mal à McDonald's. Ils sont capables de faire des opérations sur l'immobilier pour baisser leurs bénéfices ou quelque chose comme ça.
Non, pour baisser les bénéfices des franchisés, mais pour optimiser les bénéfices du groupe McDonald's qui détient les immeubles en propre, effectivement. Ah. Et c'est vrai que l'essentiel de l'argent gagné par le groupe McDonald's n'est pas gagné sur la vente des burgers même, mais il est gagné sur la location des murs auprès des franchisés. Donc l'essentiel du cash, l'essentiel des bénéfices générés par McDonald's au niveau du monde, c'est la location de tous les murs de tous les restaurants qu'ils détiennent à travers la planète. Et ça se compte en dizaines de milliers de restaurants. Donc en fait, McDo est avant tout un empire immobilier avant d'être un vendeur de fast-food.
Ah, donc on est vraiment arrivé au cœur du dispositif, si j'ai bien compris. Si je résume. À chaque fois que McDo franchise un ensemble de restaurants ou un restaurant, il crée une vache à lait captive du côté du franchisé qui n'a pas d'autre choix que de se retourner vers les salariés pour garder la tête hors de l'eau, en fait. Puisqu'il doit donner d'argent à McDonald's, mensuellement, et pour que son affaire survive, il faut qu'il pressure les salariés à mort.
Exactement, c'est effectivement une forme de pyramide de transfert de soucis ou...
Ouais.
Où le franchisé se retrouve avec la tête suffisamment hors de l'eau pour quand même bien gagner sa vie.
Ouais.
Ils sont millionnaires, là, voire multimillionnaires. C'est des belles petites fortunes quand même, les franchisés. Hein.
D'accord.
Ou pour la plupart.
Faut pas les plaindre.
Non, je pense qu'ils sont dans des situations relativement viables. Mais effectivement, le but du franchisé, c'est pas la location des. C'est pas la gestion des murs, puisque c'est McDo qui s'en occupe. Le franchisé, lui, son unique but, ça va être d'optimiser la masse salariale. Mmh. Et parce que c'est ça qui va faire sa capacité, l'essentiel de sa capacité à générer des bénéfices pour lui, c'est de payer le moins possible ses salariés.
D'accord, d'accord. Voilà. C'est vraiment un système redoutable, effectivement. C'est l'optimisation à mort.
Il y a peu de systèmes économiques dans le monde qui ont donné leur nom à des emplois. Il y avait Ford qui avait créé des emplois très répétitifs, ennuyeux, mais bien payés. Et il y a McDo qui a inventé les McJobs avec des boulots répétitifs, ennuyeux, et mal payés et précaires. C'est l'innovation de la chaîne de façon.
Toujours plus loin. Ah là là.
Exactement.
Ok, bah écoute, je te remercie pour ces précisions parce que là, on a fait un peu le tour de la question McDonald's, donc avec Raphaël. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que, bon, on voit que le système est bien rodé. Heureusement, avec Raphaël qui va revenir en studio là, on a vu que des résistances existent. Hein, heureusement, les salariés relèvent la tête et sont capables de contester ce système de pyramide et de taper là où ça fait mal. Donc, et ça montre bon que en face c'est quand même un système bien pensé. Faut pas pleurer ni sur les franchisés ni sur McDonald's. Tout le monde se paye sur la bête. Et quand les salariés ruent dans les brancards, bah c'est absolument justifié. Est-ce que tu es d'accord avec cette affirmation?
Globalement, vu l'inéquité du partage des richesses, effectivement, avec les actionnaires qui se partagent des milliards, les franchisés qui se partagent des millions et les salariés qui se partagent un SMIC à 24 heures par semaine, ouais. on peut considérer que le partage des richesses est loin d'être équitable, ouais. Et considérer comme tout à fait légitime que les salariés demandent leur part du gâteau, effectivement.
Eh ben écoute, on va juste conclure là-dessus avec quelques rendez-vous avec Raphaël. En tout cas, je te remercie Vincent de nous avoir éclairé un peu sur le système McDonald's. Je crois qu'on a bien fait le tour de la question aujourd'hui. C'était un peu l'objet de l'émission, donc je suis très content. Je te remercie pour ton intervention.
Super, ben, merci beaucoup de m'avoir écouté, hébergé puis questionné.
Eh ben pas de problème, à bientôt.
À bientôt.
Ciao.
Au revoir.
Voilà, vous êtes toujours donc sur 106.3 FM, Radio Fréquence Paris Pluriel, la séquence Secret de Fabrication. Vous pouvez écouter évidemment l'émission sur www.rfpp.net et ultérieurement la podcaster sur le site de Mode d'Emploi, mode au pluriel, tiré du 6, d'emploi au singulier. Voilà, ça c'était un peu le tour. On va juste faire quelques points sur les actions à venir parce que le combat n'est pas terminé. Le combat n'est pas terminé, c'est compris là, oui. et on va faire un petit tour sur éventuellement des rendez-vous ou des points de chute pour retrouver les grévistes puisque la grève continue et l'action continue, si j'ai bien compris.
Oui, la grève continue et en fait à assigner des grévistes pour occupation illégale. Donc jeudi à 14h au tribunal de Paris, au nouveau tribunal, on va faire un rassemblement. Et puis on va suivre aussi la sortie de notre camarade Laurent de Gouzet.
Oh, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, juste en deux mots.
En deux mots, hein, qui lors d'une action qui s'est déroulée hier à McDo sur Saint-Lazare a été en fait interpellé parce que les managers ont été d'une violence inouïe, c'est-à-dire que les managers font un travail de flics finalement, ce qui est complètement illégal et tente de repousser les entrées des militants dans les McDo. Et à l'issue de cette action d'un mouvement social hier, notre camarade de Sud Commerce, Laurent Degouzet,
que nous avons déjà reçu ici.
Il s'est fait interpeller et il est parti en garde à vue.
Comme ça.
Il a fait une vingtaine d'heures de garde à vue. Il est sorti avec rien du tout, évidemment, puisque ce n'est pas un criminel, mais on voit que McDo tente de criminaliser à chaque fois l'action syndicale, un peu soutenue, c'est vrai, par le système policier chez nous. Hein, ils ne le font pas tout seul, et donc il est sorti. On suivra, en tout cas, on est content qu'il soit sorti tout à l'heure de sa garde à vue. On a fait un rassemblement à 13h. On était une bonne équipe à demander la libération du camarade et une heure après, il pouvait sortir. Donc ça, c'était la bonne nouvelle cet après-midi.
D'accord. Et a priori, il n'y a pas de mise en cause pour quoi que ce soit. C'est une garde à vue pour rien, quoi.
Voilà,
c'est une garde à vue blanche.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Garde à vue pour rien. Et puis pour les actions, c'est vrai que là, j'ai pas de date à fixer parce que c'est quand même les syndicats évidemment qui décident et les salariés, mais. Dès la semaine prochaine, il va y avoir d'autres actions. Okay. Et là, on est même en train de penser à voir comment généraliser partout en France, avec des étudiants, avec toutes celles et tous ceux qui veulent, des actions dans les McDo pour généraliser la lutte.
On a quand même un rendez-vous donc la semaine prochaine au tribunal.
Jeudi, 14h.
Où ça, tribunal?
Tribunal, le nouveau tribunal là.
Ah, Batignolles là.
Voilà.
Ouais, c'est ça, d'accord. Ah oui, la grande tour, le ministère de la paix, ouais.
Voilà, donc on va faire un rassemblement là à l'extérieur à 14h pour se retrouver et puis annoncer les suites aussi. Puis il faut suivre sur Facebook, sur les différents groupes des McDo.
D'accord, voilà. OK.
Et là, on fera passer plein d'infos.
Allez, tout le monde à vos ordi, retrouvez un peu la trace des McDo et venez rejoindre la lutte. Ben, c'était Secret de fabrication. Cette semaine, nous avons décortiqué et démonté le système McDonald's comme à Millau. Et ben, n'oubliez pas, il n'y a que la lutte qui paye et seuls qui luttent vivent.
J'adore l'introduction, elle est cool. Oui. Ouais, j'aime. Tout est bon dans le cochon, du groin jusqu'au jambon. C'est bon. T'as raté les rognons, la queue en tire-bouchon. C'est bon. Désormais je veux chanter le cochon, le pâté et le saucisson. Répétons sur cet air polisson, qui c'est bon, c'est le cochon.